Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
On en parlait dans Europe Midi. Il y a 20 ans aujourd'hui, commençait le génocide au Rwanda. Pour évoquer cette page terrible de l'histoire, Franck Ferrand a fait appel à une voix que vous connaissez bien. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai en effet demandé à Nicolas Poincaré d'être avec nous. Il présente Europe Soir tous les jours à 18h30 sur cette antenne. Mais cet après-midi, c'est au grand reporter, c'est au témoin visuel du génocide rwandais que j'ai fait appel, car Nicolas, à cette époque, était sur place et il a vu l'horreur. Bonjour Nicolas Poincaré.
Bonjour Franck.
Merci d'être avec nous et merci de m'avoir proposé il y a quelques semaines de faire cette émission, car c'est vous qui en avez eu l'initiative, je tiens à le préciser. Il est rare, moi, que je parle d'événements aussi récents, mais là, je pense qu'on est, et le titre de l'émission se justifie ô combien, tout à fait au cœur de l'histoire. Nos fidèles vont peut-être me trouver anormalement grave aujourd'hui, peut-être même un peu grandiloquent, mais pour tout vous dire, je baigne dans ce dossier rwandais depuis maintenant plusieurs jours, et je ne sais même plus quel mot utiliser pour décrire l'indescriptible. Demain soir à 22h30, Arte diffusera un documentaire intitulé « Rwanda, la surface de réparation ». C'est vraiment très intéressant ce documentaire, je vous le recommande. On y évoque la question tellement impensable pour nous de la réconciliation actuelle du peuple rwandais, des peuples, devrais-je peut-être dire, à travers le prisme du football qui joue un rôle absolument essentiel dans ce pays. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi. C'est un film poignant, un reportage qui permet de se faire une idée aussi de l'horreur subie par les Tutsis il y a 20 ans et de prendre conscience du degré d'ambiguïté où nage aujourd'hui ce pays ravagé, dévasté. Nos médias ont tendance à se crisper depuis avant-hier sur les accusations portées contre la France par l'actuel président rwandais. Nous allons évidemment évoquer cet aspect tout à l'heure, mais il me paraît nécessaire de revenir avant cela sur les faits eux-mêmes. Pas loin d'un million de personnes exterminées méthodiquement pendant 100 journées, et cela récemment, quasiment sous nos yeux. Nous abordons le plus dur des sujets, mais je vous demande de nous suivre, s'il vous plaît, aujourd'hui dans ce voyage au bout de la nuit. Il faut que tous nous prenions bien conscience de ce qui s'est passé.
Europe 1. Cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il y a des termes qu'on emploie qu'avec précaution sur les ondes, et notamment celui de génocide qui, en droit international, répond à une définition très précise. C'est assez simple, hein, il n'y a pas 36 génocides dans l'histoire, Dieu merci. En tout cas, depuis qu'on peut considérer de près ces questions, parce qu'il est évident que si l'on remontait à certains siècles, notamment de la haute antiquité, des génocides, on en trouverait un certain nombre. Pour parler de l'époque contemporaine, il y a évidemment le génocide arménien en 1915, celui des Juifs, j'allais dire encore plus évidemment, puisque c'est celui dont on parle le plus souvent, dans les années 1940, et puis, sous certaines réserves, celui perpétré par les Khmers rouges au Cambodge, et donc ce génocide rwandais, reconnu officiellement par la communauté internationale. Ce génocide rwandais qui aura somme toute été le plus bref de l'histoire, puisqu'en à peine 3 mois, entre le 7 avril 1994 et la fin du mois de juin, l'ONU estime que plus de 800 000 Rwandais, c'est vraiment, on est dans la fourchette basse, plus de 800 000 Rwandais, en majorité Tutsis, ont été assassinés. Pardon, je vous ai dit que j'allais être un peu lourd peut-être aujourd'hui, mais il y a des chiffres qu'on ne peut pas simplement citer, se contenter d'annoncer comme s'il s'agissait simplement d'une nouvelle. Essayez de vous figurer ce que représente une telle masse de population. On cite depuis quelques jours ce rapport terrifiant, hein, de près d'un million de morts en 100 jours. Alors, comment est-ce que cette barbarie, comment est-ce que ces choses atroces ont pu se produire en plein cœur de notre époque, à peine un demi-siècle après l'Holocauste? Je ne suis pas sûr que nous allons pouvoir répondre à une telle question cet après-midi, mais c'est déjà bien de pouvoir la poser, cette question. Il faut peut-être d'abord commencer par situer les choses, parce que ça aussi, on nous dit le Rwanda. Il faut savoir ce que c'est que ce Rwanda. D'abord, c'est un pays relativement petit à l'échelle de l'Afrique. Un pays complètement enclavé, évidemment, puisqu'on est en plein cœur du continent. C'est presque le nombril de l'Afrique en quelque sorte, hein, le Rwanda. Un pays entouré de très grands et puissants voisins, surtout à l'ouest le Congo bien entendu, au nord l'Ouganda, la Tanzanie à l'est et puis le petit Burundi au sud. On est à l'ouest du lac Victoria pour essayer de vous donner un repère. Or, et ça c'est important, on est dans un pays qui est peuplé depuis la préhistoire, vous allez me dire dans cette partie déjà presque orientale de l'Afrique ça n'a rien de si extraordinaire, mais un pays dont la civilisation remonte loin avec un État constitué dès le XIVe siècle. Ça c'est très important parce que ça va jouer un rôle sur la façon dont on va coloniser cet État et surtout sur le regard que le colonisateur va porter sur lui. La ressource principale, je ne vous surprendrai guère sans doute en vous disant que c'est l'agriculture, mais agriculture à la fois culture et élevage. Avant la colonisation, le pays est divisé en districts avec à la tête de chacun de ces districts deux chefs. Un qui gère le bétail d'une certaine manière et les éleveurs, qu'on appelle le Tutsi avec un T majuscule, et l'autre qui gère lui les terres et l'agriculture, enfin la culture des terres, qu'on appelle le Hutu. Ça c'est très important, cette distinction entre Tutsi et Hutu, elle a au départ une dimension fonctionnelle. Les premiers, les Tutsis, sont donc des éleveurs et les seconds, les Hutus, sont des cultivateurs. Et vous commencez déjà à entrevoir ce qui va se produire. Vous vous doutez bien qu'évidemment, il y aura beaucoup moins d'éleveurs qu'il n'y a de cultivateurs et que ces éleveurs, par la nature même de ce qu'on leur demande, vont se cultiver différemment. Ça va être très important parce que, encore une fois, ce sont les Européens qui, sur ces populations-là, vont porter un regard qui est un regard qui est un jugement de valeur. À la toute fin du 19e siècle, ce sont les Allemands qui découvrent le Rwanda, c'est un euphémisme. La conquête est d'ailleurs pacifique et un traité de protectorat est mis en place en 1898. N'oubliez pas qu'on est dans cette période où le Kaiser Guillaume II essaie de constituer un empire colonial, mais il arrive bien longtemps après les deux grands colonisateurs qu'auront été le Royaume-Uni et la France, bien entendu. La Première Guerre mondiale arrive là-dessus, l'attaque des Belges oblige les Allemands à se retirer de la région en 1916, et après la signature des traités de paix, donc à l'issue de la Première Guerre mondiale, le Rwanda-Urundi est placé sous mandat belge par la Société des Nations, donc en 1924, il est rattaché au Congo belge. Et que font les Belges? Ils vont maintenir la monarchie traditionnelle installée donc depuis le XIVe siècle au Rwanda. Une monarchie très respectée, très importante, quasi théocratique, à la tête de laquelle se trouve la dynastie des Mwami. Alors les Mwami, c'est les rois, hein, si vous préférez, qui s'appelle les Banyiginya et qui régnera jusqu'à l'indépendance, jusqu'en 1960. Seulement, en 1931, le Mwami Musinga est déposé, il est remplacé par son fils qui, lui, a été baptisé dans la religion catholique. Et ça nous amène à la dimension religieuse qui, évidemment, joue là aussi un rôle. On aura l'occasion de reparler de tout ça tout à l'heure, dans un instant, avec Nicolas Poincaré. La même année, donc en 1931, l'administration décide de mentionner l'appartenance ethnique de tous les citoyens. Donc il y a trois grandes ethnies sur place, les Hutus en très grande majorité, les Tutsis en minorité, et puis alors en très très faible minorité, les Twa, qui sont les Pygmées, si vous voulez. Sur leur papier d'identité, désormais, les habitants du Rwanda sauront s'ils sont Hutus, Tutsis ou Twa. Alors ils le savaient évidemment, mais ça devient une sorte de référence et d'appartenance identitaire d'une certaine manière. Plus tard, beaucoup plus tard, les papiers de chacun serviront, vous imaginez, pendant le génocide, c'est extraordinaire. Il est écrit noir sur blanc si, que vous êtes Hutu, que vous êtes Tutsi. L'Église va convertir hein, à tour de bras dans les années, encore longtemps, hein, dans les années 30-40, mais même après la guerre, dans les années 50, ça continue. Et ce qui est intéressant, et je voyais ça justement hier soir dans le documentaire, parce que j'ai regardé moi en avant-première, privilège, j'ai regardé ce documentaire qui sera diffusé demain soir sur Arte, et je voyais à quel point les colonisateurs dans les années 1950, disons après la guerre, portaient sur les Tutsis une sorte de regard fasciné, parce qu'ils sont fascinants, français tutsi, il faut le dire. Ce sont des éleveurs certes, mais ce sont surtout des guerriers qui font des parades absolument magnifiques, hein, qui nous font penser aux anciens corybantes de notre antiquité grecque, qui sont de splendides guerriers, qui ont cette espèce de... La plupart font 2 mètres, voire plus de 2 mètres, voyez. Et puis alors, ils ont ces coiffures très étranges qui leur donnent un aspect singulier, si vous me permettez, toute proportion gardée. Ça fait un peu penser à ce que pouvaient être les balais russes chez nous au début du XXe siècle. Vous voyez donc, quelque chose qui fascine tout simplement les colons, notamment les Belges, et notamment aussi tous les prêtres catholiques. Et on va avoir tendance à survaloriser ces Tutsis, il faut bien le dire. Les tensions commencent à ce moment-là entre Hutu et Tutsi. En 1957 est publié le manifeste des Bahutu, c'est le pluriel de Hutu hein, en langue kinyarwandaise. Ce manifeste qui va désigner le monopole politique des, le monopole politique des Tutsi. Là, ça commence à aller mal pour eux, si je puis dire, et on commence à avoir de la part des Hutu une espèce de prise de conscience de ce qu'ils considèrent eux comme une domination Tutsi. C'est le début de ce qui va dégénérer. Et dégénérer dans les proportions que vous avez maintenant comprises.
Bande originale du film Hôtel Rwanda, sorti en 2004 avec Jean Reno. Le film retrace l'action d'un Hutu, gérant de l'hôtel 4 étoiles Les Mille Collines à Kigali, qui aura abrité et sauvé 1268 Rwandais, Tutsi et Hutu modérés dans sa propre famille, menacée par le génocide rwandais de 1994, dont vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand.
Alors, pour l'instant, on est encore au moment où tout bascule dans l'ensemble du continent africain. C'est ces années 58, 59, 60, 61. C'est l'indépendance de la plupart des États d'Afrique. Et en 59, on voit bouillonner un véritable mouvement pour l'émancipation des Hutus, des Bahutus, comme on dit, si on devait parler tout à fait... enfin, on permettrait de dire des Hutus, ce sera plus simple. Le 1er novembre 1959, jour de la Toussaint, une révolte des Hutus ensanglante le pays et va entraîner le départ en exil déjà de milliers de Tutsis qui s'en vont essentiellement vers l'ouest, hein, au Congo Kinshasa, mais aussi au Burundi, et puis surtout au nord, en Ouganda, et là c'est le début des problèmes. Au moment de l'indépendance, un véritable renversement d'alliance s'opère, puisque les colonisateurs se disent qu'il est peut-être plus malin de s'appuyer sur l'immense majorité de la population, donc sur les Hutus, sans oublier qu'on est dans une période où l'on parle de l'émancipation des peuples, etc., et que les Hutus sont un peu considérés, si vous voulez, comme les laissés pour compte de cette histoire rwandaise. Ils sont ceux dont on a envie de s'occuper et qu'on a plus ou moins envie de défendre, vu d'un point de vue occidental. Je ne peux pas m'empêcher de songer aux sanglots de l'homme blanc hein, quand on parle de toute cette histoire, parce qu'on est en plein dans cette histoire. Mais on en dira un mot plus tôt, tout à l'heure, si vous le voulez bien. La Belgique, en tout cas, va donc donner le pouvoir, si je puis dire, aux Hutus. Et ces derniers triomphent aux élections communales de juillet 60. La République est proclamée en janvier de l'année suivante. C'est un Hutu du centre hein, qui est élu président de la République. Et l'indépendance est donc déclarée en juillet 62. Dès 63, un premier massacre a lieu. Ça n'a pas tardé. Entre 8 et 12 000 Tutsis sont assassinés en décembre 1963. Et l'anti-tutsisme devient une véritable constante de la politique du président de l'époque qui s'appelait Kayibanda. En 1973, vous voyez les grands points d'inflexion. Hein. D'abord 59, ensuite 73. Le président rwandais tente à ce moment-là de réactiver l'unité politique du pays contre la menace Tutsi. Hein. C'est facile, vous savez, quand vous avez l'impression que le pouvoir vous échappe, eh bien vous désignez des boucs émissaires. Tous les gouvernants ont fait ça depuis la nuit des temps. Sauf que là, en juillet 73, tout va mal pour Kayibanda, qui est renversé par le président, enfin celui qui va devenir le président, Juvénal Habyarimana. Alors Habyarimana, c'est ce personnage hyper charismatique. Alors là, on va avoir l'occasion d'en parler avec Nicolas, bien entendu. Il instaure le parti unique. Entre parenthèses, un parti unique, c'est assez pratique, puisque tous les Rwandais, lorsqu'ils naissent, sont déclarés membres à leur naissance du MRND. Hein, c'est assez pratique. On instaure par ailleurs un système de quotas. Ceuta, qui est calqué sur le modèle belge. Il ne faut pas oublier que c'est intéressant aussi, ce colonisateur belge qui lui-même, dans son propre pays d'origine, dans sa métropole, est obligé de gérer deux communautés, wallonne et flamande, hein, avec deux langues, etc. Bien, de la même façon, on instaure des quotas au Rwanda. L'accès aux écoles et aux postes administratifs se fera en fonction de la répartition de la population. Donc 9% pour les Tutsis, 1% pour les Twas, hein, les Pygmées si vous voulez, et puis évidemment 90% pour les Hutus. Inutile de vous dire que les Tutsis l'ont mauvaise, si vous me passez l'expression, eux qui en plus ont été élevés dans cette idée de supériorité, de domination, de peuple guerrier, etc. Les voilà qui, pour une partie non négligeable d'entre eux, se retrouvent maintenant exilés en Ouganda, réfugiés littéralement. Et ces émigrés Rwanda, qu'on va appeler les Banyarwandas, alors qui ne sont pas tous des Tutsis, mais qui le sont en immense majorité, vont se regrouper au sein d'une organisation de soutien aux réfugiés qui elle-même, alors un petit peu plus tard, en 1987, va donner naissance au fameux Front Patriotique Rwandais. Ça y est, nous y voilà, ce FPR, qui, soutenu par l'Ouganda qui sera la base arrière de ce FPR, va pénétrer en force au Rwanda à partir du 1er octobre 1990. Alors je dis en force quand vous voyez les images, et depuis deux ou trois jours la télévision n'hésite pas à les diffuser un peu en boucle, quand vous voyez l'entrée des soldats du FPR, des partisans du FPR dans le nord du Rwanda en octobre 90, vous vous rendez compte qu'ils sont plutôt accueillis. C'est une situation assez ambiguë, bien entendu. On sent à ce moment-là que la guerre civile est en train de se préparer, bien entendu. Une nouvelle constitution est adoptée en juin 91 sous pression de la France, qui est là, qui surveille, si je puis dire. Constitution reconnaissant le multipartisme et créant un poste de Premier ministre. Les partis d'opposition l'emportent aux législatives de 92. À ce moment-là, Habyarimana accepte de prendre pour Premier ministre un Hutu modéré, qui est le président du MDR. Et en juin 92, toujours sous cette pression internationale qui se fait de plus en plus forte, des négociations commencent pour rétablir la paix et pour organiser le partage du pouvoir entre le MRND d'une part, hein, le parti au pouvoir de ce président Habyarimana, et puis de l'autre côté, ces gens du FPR qui descendent du Nord et qui sont essentiellement des Tutsis. Les accords d'Arusha seront signés le 4 août 1993, mais ils vont rester sans effet, malgré la présence des contingents de la mission des Nations Unies d'assistance au Rwanda, hein, ce qu'on appelle la MINUAR. La même année, l'administration décide d'avancer en quelque sorte dans ce multipartisme, mais on peut dire que la guerre civile est déjà lancée d'une certaine manière. En 1992, les Hutus les plus extrémistes s'étaient déjà réunis avec les milices Interahamwe, ceux qui tuent ensemble, ça veut dire, hein, qui est donc le bras armé du parti présidentiel, le MRND, et ils se sont réunis dans un mouvement qu'on appelle le CDR, c'est la Coalition pour la Défense de la République. Vous voyez maintenant que CDR contre FPR, ça y est, tout le monde est prêt à se massacrer. Le massacre, il va avoir lieu surtout dans un sens et dans des proportions que personne n'aurait évidemment pu imaginer.
Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission dans un instant sur Europe 1. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur le génocide rwandais.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
20 ans après, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au génocide rwandais.
Alors, dès 93, vous l'avez bien compris, les membres de cette CDR, cette Coalition pour la Défense de la République, joli mot, pour désigner en fait des milices Hutus, bien entendu, vont se livrer à une véritable propagande de fond, propagande massive, pour faire du Tutsi l'ennemi mortel, qu'il a d'ailleurs été toujours plus ou moins considéré, mais qui en l'occurrence va devenir la cible. Et il y a deux grands organes qui vont servir à cette propagande, c'est le journal Kangoura bien sûr, et puis cette radio des mille collines sur laquelle nous allons revenir bien entendu. Et il faut toujours, vous savez, quand on est près de la guerre civile, quand tout est là, quand tout est en place, on n'attend plus bien sûr que la petite étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Et là, elle arrive le 6 avril 1994, lorsque l'avion qui transporte le président Juvénal Habyarimana, et son homologue burundais d'ailleurs, est abattu au moment de son atterrissage à Kigali. Entre parenthèses, grande question, grand mystère historique, hein, que cet attentat, qui a tué le président Habyarimana, c'est très difficile de le dire. On va y revenir aussi, parce qu'en ce moment même, des enquêtes sont toujours en cours sur ce sujet. C'est le caractère délicat de ces sujets d'histoire immédiate, hein, c'est qu'une part est encore... l'histoire continue de se faire, bien entendu. Alors cet attentat va mettre, je vous l'ai dit, le feu aux poudres, dans ce contexte extrêmement de tension extrêmement vive. Dès le 6 avril au soir, des tueries éclatent simultanément dans la capitale, le sud, l'est, même le nord du pays. Des opposants Hutus et des milliers de Tutsis sont immédiatement massacrés. Quand je dis des opposants Hutus, ils sont une infime minorité. C'est essentiellement, bien sûr, des Tutsis. Et dès le 7 avril au matin, c'est la première ministre, enfin le premier ministre féminin, si je puis dire, qui est assassiné. Un gouvernement intérimaire est constitué en quelques jours sous la houlette d'un colonel qui se révèle en fait être l'homme fort du régime après la disparition de ce président Habyarimana. Et le 8 avril 1994, attention, c'est important, la France par l'opération Amaryllis, puis la Belgique avec l'opération Silverback, et puis l'Italie aussi, vont évacuer leurs ressortissants et ceux d'autres pays occidentaux. Et ce sont ces images que je revoyais là aussi hier soir, qui sont tellement dures, de ces soldats français, blancs, si je puis dire, qui font le tri tout simple entre les Européens blancs, qu'on fait monter à bord des camions, des camionnettes, etc. Et puis les autres, hein, ceux qui sont noirs et qui sont des Tutsis, qui savent qu'ils vont être assassinés là, dans les heures qui suivent, mais qu'on repousse, qu'on écarte pour essayer de partir et pour évacuer les Occidentaux. Et bien sûr, toutes ces images, elles ont été montrées à l'époque, mais elles ne l'ont pas été tant que ça. Il y avait peu de reporters sur place. Il y en avait un à l'époque pour Radio France. Il est aujourd'hui Europe 1. Il est dans ce studio. C'est Nicolas Poincaré, auquel je vais désormais passer la parole. Alors Nicolas, il y a énormément à dire déjà sur toutes ces prémices. Bon, ce que j'aimerais, c'est que nous nous concentrions, nous, sur le massacre lui-même, bien entendu. On va venir dans un instant aux circonstances de votre arrivée sur place. Un mot peut-être, vous me disiez à propos de ces cartes d'identité, qu'évidemment personne ne se serait promené avec une carte d'identité Tutsi. Ça aurait été une condamnation à mort immédiate. Ce qu'il fallait, c'était pouvoir montrer une carte d'identité ou tout, en fait.
Voilà, donc les Tutsis se promenaient naturellement sans carte d'identité. Ils avaient détruit leurs papiers et par accident, il y a des Hutus qui sont morts. Tout simplement parce qu'ils avaient perdu leurs papiers. Hein. Si vous perdiez vos papiers pour prouver que vous étiez Hutu, vous pouviez mourir.
Qu'est-ce que vous faisiez, vous, là-bas, et qui avez-vous vu? C'est ce que nous allons voir dans un instant ensemble.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
J'ai vu des enfants fuir sans où aller, courir avant même de savoir marcher, venir au monde est déjà orphelin. Sans lendemain certain, j'ai vu des mères enceintes et éventrées, j'ai vu leurs corps meurtris, leurs âmes violées, j'ai vu les pères sauver leur peau salie, j'ai vu la vie dès lors en être le prix. Je suis là pour vous le rein.
Un extrait de son titre « Tout va très bien ».
Et oui, évidemment, comment ne pas citer Corneille? Et ce Corneille-ci, j'ai l'habitude de citer l'autre, moi d'habitude. Vous savez que le chanteur Corneille, évidemment, est un survivant du massacre. Et ce qu'il dit sur ce ton faussement léger traduit assez bien ce qu'on ressent à travers les... Moi, je n'y suis pas allé, bien entendu, Nicolas Poincaré, mais j'ai vu tous ces reportages de télévision. On a l'impression sur place d'une forme de très grand fatalisme, somme toute, comme si ce malheur, un vrai invraisemblables, ces massacres inouïs qui se sont perpétrés, n'empêchaient pas les gens de continuer à avoir une espèce de foi dans la vie. Hein. C'est assez étonnant.
Oui, mais c'est une façon de parler aussi, sans doute, un phrasé, un vocabulaire,
oui,
une apparence qui peut donner de temps en temps l'impression que les gens parlent sans affect. Je me souviens d'une femme qui me racontait comment ses enfants étaient morts, et à la fin, je lui dis « Vous pleurez plus ?» Et elle m'a dit, mais elle éclate de rire, elle m'a dit « Non, on pleure pas, on n'a plus de larmes, mais en fait, ce sont des mots, elle pleure comme toutes les mères du monde quand elle a perdu ses enfants. »
Oui, bien sûr. Alors, vous y êtes allé, vous, pendant cette période atroce, un certain nombre de fois, plusieurs fois.
Cinq fois pendant les trois mois du génocide.
Ouais, ouais.
Ce qui veut dire que je suis reparti cinq fois aussi, et je comprends toujours pas pourquoi je suis parti cinq fois.
Mais ça veut dire que, à la limite, cette question, je ne sais pas pourquoi je suis reparti, c'est la question, est-ce que j'avais conscience de l'importance du génocide? Est-ce que vous en aviez conscience vous-même?
Avec retard? Non, bien sûr qu'on n'a pas compris tout de suite. Sinon, encore une fois, on serait resté, aurait crié plus fort, on aurait alerté plus fort. Non, globalement, la presse n'a pas été très bonne. C'est un échec de tout le monde, mais c'est aussi un échec des gens qui ont pas su, des gens qui étaient sur place et qui n'ont pas su alerter comme il aurait fallu.
En gros, vous étiez combien de journalistes sur place au moment où ça
Ça dépendait des périodes. Sur l'opération Amaryllis, donc d'évacuation des Français, le tout début du génocide, on devait être une quarantaine peut-être. Après, il y a des moments où je pense que j'étais seul, en tout cas seul dans la région où je me trouvais, vers la fin du génocide à Boutaré, j'ai croisé aucun autre blanc et il n'y avait plus de blancs dans le pays.
Vous êtes revenu donc après cette première, ce premier voyage au moment de l'opération Amaryllis, là, au tout début. Là, c'est le moment où on évacuait les ressortissants européens.
Voilà. Alors là, c'est le moment où on a vu le génocide, hein, parce qu'il se passait dans chaque rue de Kigali et les blancs étaient encore là et les Hutus ne se cachaient pas. Peu importe qu'on soit là, ils tuaient devant nous. J'ai vu sous mes yeux des mères, des filles se faire tuer. J'ai vu les milliers de blessés à l'hôpital qui étaient laissés sans soins et qui allaient tous mourir. Donc ça, c'est l'évacuation des Blancs. Ça a duré quelques jours. On était là. Après, effectivement, il n'y avait plus de témoins et ça s'est passé sur les collines. Et ça s'est passé. C'est pour ça que vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas d'image. Il n'y a pratiquement pas d'image. Il
n'y
avait pas de témoins.
On a presque envie de dire heureusement, mais enfin, c'est terrible. Vous êtes revenu avec le FPR. Donc là, le FPR qui était basé au nord, du côté de l'Ouganda. Vous êtes rentré avec eux, si je puis dire. Ça, c'est votre deuxième voyage.
Voilà. Et c'était une armée qui était en train de conquérir un territoire complètement vide, puisque les Tutsis étaient morts et les Hutus fuyaient devant eux. Donc on avançait avec le FPR, avec les premières lignes, et on découvrait des champs de cadavres. Les soldats roulaient sur les cadavres, puisque vous, au début, vous le contournez par le fossé une fois, deux fois, puis après, ça vous ralentit trop, vous roulez sur les cadavres. Et donc, par exemple, on est arrivé jusqu'à la ville de Nyamata, où j'étais avec les soldats du FPR quand ils ont découvert 5000 cadavres derrière l'église, sur l'arrière de l'église.
Ouais. Ils s'étaient cachés, tous ces soldats étaient cachés dans les marais. Là,
Nyamata, c'est une ville où effectivement, les rares rescapés, hein, parce qu'il y avait à peu près 50 000 Tutsis dans la ville de Nyamata, et il n'y a pas plus que 5 000 rescapés, donc 45 000 morts. La plupart de ceux qui ont survécu en se cachant du matin au soir dans les marais. Jean Hatzfeld le raconte dans plusieurs livres. C'est-à-dire que vraiment, du matin au soir, ils se cachaient sous les papyrus, sous les plantes, avec juste la bouche qui dépassait. Et puis, ils attendaient 17-18 heures où les tueurs arrêtaient la chasse et ils allaient se reposer, essayer de manger un peu pendant la nuit sur la terre ferme et repartaient le lendemain dans les marais.
Alors, vous refaites encore un voyage. Cette fois, vous êtes à Bataré où le génocide, enfin, où les massacres viennent tout juste d'avoir lieu, là, c'est
ils
ça?
Ils sont en cours.
En cours.
On est début juin, et effectivement, à Boutaré, j'étais à l'évêché, où il y avait un évêque Tutsi qui était en danger, qui était encerclé. Il me disait avec fatalisme, ils peuvent venir nous tuer d'une minute à l'autre. Et il m'a dit, cet évêque, on avait regardé un match de la Coupe du Monde aux États-Unis de foot ensemble. Et à la fin du match, il me dit, bon, il y a un prêtre, là, vous devriez aller le voir, il a des choses épouvantables à vous raconter. Je suis allé voir un prêtre qui venait d'arriver dans l'évêché et qui m'a dit, dans mon village, entre Gikongoro et Boutaré, on a tué ces derniers jours, ça vient de se terminer, on a tué 30 000 personnes. Et je lui ai dit, mais comment vous pouvez dire 30 000 personnes? Et il m'a dit parce que...
Ça veut dire que vous le croyiez même pas,
Non, puis je me disais, comment il peut avoir le chiffre? Parce qu'il était pas là, enfin, il est parti dès le début des massacres, il a réussi à s'enfuir, et en fait, il m'a sorti ses cahiers, il avait noté tous les arrivées, parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés, d'autres massacres qui arrivaient dans son village, et comme il fallait les nourrir, il avait noté pour demander à Caritas de l'aide alimentaire depuis plusieurs semaines. Et donc, il savait exactement combien il y en avait. Il disait 30 000. J'y ai pas tellement cru. Le lendemain, avec une sœur autrichienne, on a décidé d'aller voir sur place. On est arrivé. Il y avait encore des monceaux de cadavres éparpillés un peu partout, à l'orphelinat, à l'église, à l'école, enfin, un petit peu partout. Des traces de sang sur les murs, des mains, des gens qui avaient essayé de s'en sortir par le haut, comme ça. Bon, et les cadavres étaient encore là. Ça sentait la mort à plusieurs kilomètres, quoi. Et puis finalement, après, on a su, parce que c'est devenu un lieu de mémorial, on a déterré les cadavres qui avaient été enterrés à la pelleteuse et on en a fait sur place un mémorial. Et donc, le prêtre avait raison, le chiffre exact, c'est 26 700 morts. Donc, on voit encore aujourd'hui les crânes qui sont exposés. Donc, ce cadavre, ce massacre,
c'est une sorte d'ossuaire, en fait, hein,
voilà.
C'est ça?
Ouais, c'est un des principaux lieux de mémoire.
Mémoire.
Et ce massacre, je l'ai découvert 24 heures après, quoi. Et
mais ouais. dans le film qui sera diffusé demain soir sur Arte, on voit cet épisode du stade, là. C'était assez fréquent, puisque ce pays, on va y venir tout à l'heure, hein, bien sûr, on va revenir sur certains aspects culturels, etc. Pour l'instant, on parle des choses épouvantables, et puis je rassure nos auditeurs, on va revenir à des choses un peu plus fondamentales, peut-être. Mais le football joue un rôle absolument structurant dans cette société rwandaise, et on réunissait les gens dans les stades, et on tire dessus, comme ça, à bout portant. Les gens tombent les uns sur les autres. Enfin, c'est une horreur. Il y en a qui meurent étouffés par le poids des autres cadavres. Enfin, et les familles sont là, voient leur. On assiste, chacun assiste au meurtre de ses proches. C'est une indescriptible destruction d'êtres humains, tout à fait ordonnée à heure fixe, hein, puisque les massacres ont toujours lieu de jour. Ils s'arrêtent vers 17h, 17h30 et on attend la réouverture des bureaux, si je puis dire, pour reprendre le lendemain matin.
Alors voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Effectivement, généralement, les gens se sont rassemblés dans les stades de football à Kibouye que vous venez d'évoquer, mais principalement dans les églises, dans les paroisses. L'église au sens large, hein, parce que souvent vous avez les bonnes sœurs, les prêtres, la paroisse, l'orphelinat, tout ça fait des grands lieux religieux catholiques comme ça, où les gens se sont réfugiés en masse, et puis les milices décidaient d'en terminer avec telle paroisse. Et donc, généralement, on rameutait toute la population locale, mais vraiment toute, pour qu'il y ait une masse énorme pour encercler, pour être sûr que personne ne puisse s'en sortir. Et puis souvent, ce sont les milices interahamwées, la gendarmerie, l'armée qui arrivaient et qui donnaient l'assaut. Et donc, on lançait des grenades à l'intérieur des églises, mais ça tuait pas tout le monde, parce qu'il y a toujours des gens qui, ils étaient tellement nombreux que les corps se protégeaient les uns les autres. Et ensuite, on envoyait les miliciens avec des machettes et on terminait le travail à la machette. Et puis, ceux qui avaient le plus de force et de courage pour essayer de s'en sortir partaient en courant, mais ils étaient toujours rattrapés, puisque là, encore une fois, tout le monde participait, tout le monde était, on donnait le signal, on disait aujourd'hui, on va attaquer telle paroisse ou tel stade, et des milliers et des milliers de personnes venaient machette à la main pour être sûr que personne n'en réchappe.
Ah, c'était absolument incroyable.
Avec des chiffres, donc vous parliez du stade de Kibouye, il y avait 36 000 personnes dans ce stade, c'est l'équivalent du Parc des Princes, quoi. On a tué en 48 heures l'équivalent du Parc des Princes à la machette, par balle, et en terminant un par un, quoi.
Et je comptais, c'est un peu sordide, mais c'est pour se faire une idée, c'est pour bien comprendre tout ça, que le nombre total des victimes de ce génocide, c'est l'équivalent de 100 fois le stade de France rempli. C'est complètement fou.
Une autre image m'était venue à l'époque à l'esprit, c'est la rive gauche de Paris. Donc imaginez que vous vous promenez, pour ceux qui connaissent Paris, d'Austerlitz jusqu'à la porte de Versailles, et ben tous les gens que vous allez croiser dans cette longue marche, ils sont morts. C'est-à-dire les enfants, dans les écoles, les vieux, dans les gens qui sont au cinéma, les gens qui sont dans le métro, les gens qui sont chez eux, les gens qui sont au bureau. Vous prenez toute la rive gauche de Paris et vous imaginez que vous tuez toute la rive gauche de Paris en 100 jours et à la machette.
Alors votre confrère et ami Jean Hatzfeld, avec lequel d'ailleurs vous allez retourner 2 ans plus tard au Rwanda pour voir revenir les fameux tueurs, ça on va en parler tout à l'heure bien entendu, a écrit pas mal d'ouvrages, dont une saison de machette qui est publiée au Seuil, où il donne la parole à certains témoins, notamment à ce Pancras qui dit, je le cite, « Pendant cette saison des tueries, on se levait plus tôt que d'ordinaire pour manger copieusement la viande, et l'on montait sur le terrain de football vers 9h ou 10h, les chefs rouspétaient contre les retardataires, et on s'en allait en attaque. La règle numéro 1, c'était de tuer. La règle numéro 2, il n'y en avait pas. C'était une organisation sans complications. Et il y en a, il y a un autre qui s'appelle Fulgence qui témoigne. Il dit, le 11 avril, le conseiller communal de Kibango nous a dit à la ronde que dorénavant, on ne devait plus rien faire d'autre que tuer des Tutsis. Nous, on a bien compris que c'était un programme définitif. L'ambiance avait viré. Ce jour-là, des gens mal informés étaient montés à cette réunion sans apporter la machette ou un outil coupant. Les interahamwés les ont sermonnés. Ils leur ont dit que c'était bon pour cette fois, mais que ça ne devait plus se renouveler. Ils leur ont demandé de s'armer de branches et de cailloux, de former des barrières à l'arrière pour empêcher les fuyards de passer. Et par après, on s'est trouvé meneur ou suiveur, mais personne n'a plus jamais oublié sa machette. Et il dit plus loin, un grand nombre de gens ne savaient pas tuer, mais ce n'était pas un inconvénient, parce qu'il y avait des interahamwés pour les aider dans leurs premiers pas. Les premiers jours, les interahamwés se transportaient en autobus blocus des collines avoisinantes pour donner main forte, prêter main forte. Ils étaient plus habiles, ils étaient plus imperturbables, ils se montraient aussi plus spécialisés.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, 20 ans après, du génocide au Rwanda, avec votre invité, Nicolas Poincaré, qui présente Europe Soir du lundi au vendredi, à partir de 18h30 sur Europe 1.
Le Rwanda, écrit Jean Hatzfeld, célèbre pays des mille collines, et surtout le pays d'un immense village. 4 familles rwandaises sur 5 vivent à la campagne, et 9 sur 10 tirent peu ou prou leurs revenus de la terre. Aucun médecin, aucun professeur ou commerçant citadin qui ne possède une parcelle sur sa colline natale, qu'il cultive à temps perdu ou confie à un parent. Même Kigali, dispersé sur une vaste superficie, s'apparente plus à un assemblage de bourgades reliées entre elles par des vallonnements et des terrains vagues, plutôt qu'à une capitale. En fait, on peut dire, Nicolas Poincaré, que c'est une sorte de massacre à la campagne qui a eu lieu. Ce génocide est un génocide dans les villages, en fait.
Oui, oui, ça a eu lieu dans tout le pays, et comme l'écrit Hatzfeld, c'est un pays essentiellement rural. Même quand vous arrivez dans une ville, vous dites, il y a combien d'habitants ici? On vous dit, ah, ici, c'est une ville de 60 000 habitants, mais vous dites, elle est où, la ville? C'est complètement éparpillé, si vous voulez. C'est très surpeuplé. Naturellement, ça a joué un rôle aussi. Hein, c'est que chaque paysan a un très petit lopin de terre et beaucoup de mal à survivre.
S'il y a eu autant de victimes, c'est qu'il y a eu une quantité incalculable de tueurs.
Alors, absolument, ça reste encore aujourd'hui, 20 ans après, le seul pays du monde, vous vous promenez dans la rue et si vous êtes par exemple à Nyamata avec Jean Hatzfeld qui vit depuis 20 ans presque par alternance et qui sait tout, il vous dit lui il a beaucoup tué, lui un peu moins, lui c'est un rescapé et c'est partout, il y a des milliers et des milliers de morts. Vous parliez tout à l'heure du moment où les tueurs sont revenus, hein, parce que dans un premier temps ils avaient fui au Zaïre et ensuite ils sont revenus. Quand ils sont revenus, les ordres du FPR qui avait pris le pouvoir, donc du nouveau pouvoir, c'était chacun rentre chez soi et sera arrêté en temps et en heure et jugé. Et donc les gens sont rentrés chez eux. Et à Boutaré, où j'étais de nouveau, je suis passé à la gendarmerie, ils m'ont dit tout à l'heure, il y a un type qui est venu frapper à la porte de la gendarmerie, qui a dit bonjour, j'ai tué au moins 1000 personnes, je vous assure, je voudrais être arrêté, parce qu'il avait peur de rentrer dans son village et des représailles. Et donc, les gendarmes ont appliqué les consignes qui étaient, non, vous allez dans votre village, vous serez arrêté en temps et en heure. Et l'autre disait, oui, mais quand même, 1000! Quand même, j'ai tué 1000 personnes, arrêtez-moi! On lui a dit, non, tu rentres dans ton village et tu seras arrêté plus tard. Et c'est le seul pays au monde où quelqu'un peut frapper à la gendarmerie en disant bonjour, j'ai tué 1000 personnes. Un, il est pas fou, ni schizophrène. Deux, c'est vrai. Et trois, on l'arrête pas. Il n'y a pas d'autre, cherchez pas, sur la planète, un autre endroit où quelqu'un peut vous dire j'ai tué 1000 personnes et c'est pas un fou. Il l'a vraiment fait.
Oui, c'est ça. Le directeur de l'école et l'inspecteur scolaire de mon secteur, dit un des témoins cités par Jean Hatzfeld, ont participé aux tueries à coups de gourdin clouté. Deux collègues professeurs avec qui on s'est échangé des bières et des appréciations sur les élèves auparavant ont eux aussi mis la main à la pâte, si je puis dire. Un prêtre, un bourgmestre, le sous-préfet, un docteur ont tué de leurs mains. C'est-à-dire que, mais alors, qui leur donnait la force d'aller commettre de telles atrocités? C'est ça qui était extraordinaire. Ils étaient fanatisés, tous ces tueurs? Ils étaient.
C'est un mouvement, effectivement, collectif, avec beaucoup de propagande depuis plusieurs années. Ça n'aurait pas pu avoir lieu si on n'avait pas réussi à coller dans l'esprit de tout le monde que s'il ne tuait pas, il serait tué. C'est-à-dire ce que rapportait la propagande, et avec encore plus de force quand le génocide a commencé, c'est les Tutsis ont commencé à creuser les fosses communes, le FPR arrive, tous les Tutsis sont des complices du FPR, si vous ne les tuez pas, c'est eux qui vous tuera. Donc il y avait une espèce de peur qui avait été créée artificiellement, qui disait tuez, sinon vous serez tués. Quoi. Et puis il y avait aussi, pour ceux qui ne voulaient pas tuer, des représailles. Il y a aussi des gens qui ont été tués pour ne pas avoir tué, mais
alors,
très peu.
Nicolas Poincaré, vous étiez sur place, vous avez vu les résultats, vous avez entendu ce qu'on vous disait, vous avez vécu cette période absolument d'horreur. Est-ce qu'on peut vous demander si vous avez vu vous-même des personnes se faire tuer, se faire assassiner?
Dans la minute où j'arrive à Kigali, juste après le 7 avril, je suis avec un photographe qui s'appelle Luc Delahaye, et on voit un attroupement qui se forme, on a le temps de voir de la voiture que c'est une mère et sa fille. On s'éloigne un petit peu parce qu'ils nous menacent. On regarde de loin, donc on voit rien parce qu'ils sont encerclés. Donc la mère et la fille sont coupées à la machette. Et puis la foule s'éloigne et on repasse devant avec la voiture et on s'aperçoit, donc leurs corps sont par terre, et on s'aperçoit que la mère et la fille ne se sont pas lâchées la main. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu le réflexe de se protéger l'une l'autre ou de se protéger la tête. Elles sont restées complètement passives sous les coups de machette. Et donc il y a ces deux cadavres d'une mère et d'une fille qui sont mortes sans se lâcher la main. Et c'est la première image que je vois à la minute où j'arrive. Mais ensuite, dans les jours qui vont suivre, dans les heures qui vont suivre, je vais voir des centaines et des centaines de cadavres
passer,
partout.
Vous voyez des Tutsis qui sont réunis en quelque sorte, c'est ça?
Alors ça c'est un petit peu plus tard, c'est une scène beaucoup plus troublante pour moi. C'est quand j'allais vers ce massacre dont je vous ai parlé tout à l'heure de 30 000, je voulais le vérifier. On m'avait dit, allez là-bas, c'est important, faut témoigner. Allez dans ma paroisse, vous verrez, il y a 30 000 cadavres. Et en y allant sur la route, j'ai vu sous un arbre une dizaine de personnes rassemblées et puis quelques autres autour avec la machette. Et j'ai compris tout de suite que ceux qui étaient rassemblés sous l'arbre, c'était des Tutsis qui allaient sans doute être très vite exécutés, et que ceux qui étaient autour, c'était des Hutus. J'ai ralenti, j'ai vu le regard des Tutsis qui disaient, tiens, un blanc, c'est peut-être notre sauveur. J'ai vu le regard des Hutus qui disaient, tiens, un blanc, c'est peut-être un gêneur. J'ai hésité une seconde et j'étais avec une sœur autrichienne qui m'a dit, roule. Elle avait vraiment peur. Et j'ai roulé. C'est-à-dire que j'ai laissé, et ça me travaille depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je me dis, qu'est-ce qui serait passé si je m'étais arrêté? Si je m'étais arrêté, peut-être j'aurais été tué. C'est ce que pensait la sœur autrichienne qui était avec moi. Peut-être pas. Peut-être que j'aurais pu prendre dans la voiture de 3 enfants. Peut-être que, mais j'en sais rien. J'en sais toujours rien ce qui serait passé quand je me suis arrêté, puisque je me suis pas arrêté.
Alors il y a cette quantité de témoignages qui arrivent de partout. Je fais encore allusion à ce documentaire d'Arte qui sera donc diffusé demain soir à 22h30, où l'on découvre notamment que certains ont payé pour être exécutés par balle et non pas à l'arme blanche. C'est-à-dire qu'il fallait payer pour ne pas être déchiqueté à la machette.
Ouais, c'est un Hutu qui m'a raconté comment la veille, sa femme avait été exécutée. Donc sa femme était Tutsi. Les miliciens sont venus, lui ont dit, maintenant, il faut qu'on tue ta femme. Et il me raconte, il me dit, heureusement, j'avais de l'argent. Donc heureusement, j'ai pu payer pour qu'elle meure par balle, ce qui est quand même beaucoup moins douloureux. Et je lui ai dit, mais ta femme était où pendant la négociation? Il me dit, bah, elle était là, à côté de moi. On était dans la pièce. Hein. Et je lui ai dit, donc elle a assisté à la négociation sur la façon dont elle allait mourir. Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, alors, comment elle réagissait? Il m'a dit, elle était bien contente aussi.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, 20 ans après du génocide au Rwanda, avec votre invité Nicolas Poincaré.
Alors Nicolas Poincaré, il y a deux choses qui, lorsqu'on n'a pas comme vous connu cette époque et ces événements, sont frappantes. C'est d'une part la terreur généralisée, ces Tutsis qui jour après jour vivent dans la peur qu'on vienne les assassiner, parce qu'ils savent très bien, c'est ce que raconte un joueur de football dans le film. Ah oui, juste un mot sur le football, c'est qu'en fait, toutes les traditions guerrières, si je puis dire, du peuple Tutsi ont été transmuées par le colonisateur belge en qualité de footballeur, et qu'on a créé des équipes dès les années 1900, 1905, 1910, et que c'est devenu un grand peuple de footballeurs, en fait, hein, ce peuple rwandais. Je ferme cette parenthèse. Et donc, cette terreur, dis-je, ces gens qui se disent qu'on va venir les assassiner d'une minute à l'autre, ils disent qu'ils étaient tranquilles seulement la nuit et encore, et qu'ils ne pouvaient pas se sauver parce qu'il y avait des barrières partout et des barrages partout, donc il y a ça. Et puis d'autre part, et peut-être plus étonnant encore, on voit ces militaires occidentaux et pour certains français qui passent à côté, de convois de tueurs et il ne se passe rien. Ça pose la question de la responsabilité évidemment de la France en l'occurrence.
Alors les militaires français, c'est pendant l'opération turquoise, c'est-à-dire qu'ils arrivent vers le 20
vers
juin,
la fin, oui.
C'est pratiquement terminé partout. Mmh. Donc effectivement, quand ils arrivent, les tueurs sont en train de perdre, parce que ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que pendant qu'ils commettent le génocide, l'armée, ils tuent les civils Tutsis, et pendant ce temps-là, l'armée Tutsi arrive d'Ouganda et avance.
Le fameux FPR.
Voilà. Et donc, si vous voulez, au moment où arrive l'armée française, les tueurs sont persuadés qu'ils sont en train de perdre la guerre contre le FPR et croient que la France vient les sauver. Donc effectivement, on a ces images en tête. Moi, j'arrive avec les tout premiers éléments de turquoise quand on rentre au Rwanda. Les soldats français sont acclamés par les tueurs qui ont leur machette ensanglantée à la main et qui crient vive la France, si vous voulez. Et donc, les Français, là-dedans, vont à la fois sauver les derniers Tutsis qui restent à sauver, et il y en a quelques milliers, on estime 10 000 environ, donc qui doivent leur vie à cette opération turquoise, mais en même temps, elle est très très ambiguë, puisque les soldats français sont acclamés par les tueurs.
Et au moment des premières évacuations, on n'évacue pas notamment du personnel d'ambassade Tutsi, par exemple. Ça, c'est une faute, ça.
Alors ça, c'est au tout début du génocide. Effectivement, l'opération Amaryllis a clairement évacué les gens uniquement sur leur sur le critère de la clarté de leur peau, quoi. C'est-à-dire que vous êtes blanc, vous montez dans les avions, vous êtes métis, vous avez une petite chance, vous êtes noir, vous montez pas, y compris la secrétaire de l'ambassade de France qui travaillait depuis 18 ans pour l'ambassadeur, qui a été laissée sur place, qui était tutsie et qui est morte dans le jour même.
Je rappelle qu'à l'époque, on est en période de cohabitation en France. Le président de la République, c'est François Mitterrand, le premier ministre, Édouard Balladur. Or, pendant cette période du génocide, il y a à Paris des réceptions officielles d'un certain nombre de responsables rwandais, Hutu en l'occurrence.
Alors ça, c'est à mon avis une des grandes fautes, parce que c'est le problème, c'est quand on parle des responsabilités de la France, c'est que souvent on mélange tout ce qui s'est passé avant le génocide, où effectivement la France avait choisi le mauvais camp, hein, on était derrière Abiy Ahmed contre le FPR, avant le génocide, pendant le génocide et puis au moment de Turquoise. Et on mélange tout. Certains ont intérêt d'ailleurs sans doute à ce qu'on mélange tout, ça oui, permet ça de ne pas arriver aux vraies responsabilités. À mon avis, une des grandes fautes effectivement de la France, c'est la réception à Paris, en plein génocide, des principaux du chef du gouvernement provisoire. C'est-à-dire vraiment le chef des tueurs a été reçu à l'Elysée, au Quai d'Orsay et à Matignon pendant cette période-là. Et je ne sais pas ce qu'on lui a dit, mais on ne lui a pas tenu le bon discours. On ne lui a pas dit arrêtez tout, sinon on arrive et on vous tape dessus. Quoi. En tout cas,
Est-ce qu'on est allé jusqu'à armer les tueurs hutus ? Parce que ça, c'est une des accusations qui traîne là-bas, si je puis dire.
En tout cas, clairement, avant le génocide, la France soutient l'armée rwandaise qui va devenir génocidaire, livre des armes.
Gouvernement légal, si je puis dire.
Voilà, c'était le gouvernement légal. Abiy Ahmed, en l'occurrence. Et c'est un général français qui est le vrai chef d'état-major de l'armée. L'armée qui va passer en un an et demi de 4000 à 40000 hommes. Donc on encourage les Rwandais à s'armer et on les forme. Cela dit, voilà, on les forme pas à tuer. Ils ont pas besoin des Français pour apprendre à couper à la machette. Ça, ils l'ont fait tout seul. Le génocide a été commis par des Rwandais, pas par des Français. Mais la France, depuis le tout début et jusqu'à Turquoise, avait choisi le mauvais camp.
Et puis, il y a cette affaire qui est toujours pas réglée de l'assassinat qui a déclenché les choses en avril 1994, cet attentat contre l'avion présidentiel, et on ne sait toujours pas ce qu'il en est aujourd'hui.
Non, moi j'ai aucune...
Il y a des enquêtes en cours quand même.
Le juge Trévédique enquête et lui est persuadé que ce sont les Hutus qui considéraient que le président était trop modéré qui l'ont tué. Le juge Bruguière a enquêté plusieurs années avant, il était persuadé absolument du contraire.
C'était le président Kagame, lui disait-il, Bruguière.
Voilà, Bruguière est persuadé que c'est le FPR qui a abattu. J'allais dire peu importe, parce que le génocide, il a eu lieu après, c'est le facteur déclenchant, mais c'est pas l'assassinat du celui qui a assassiné le président n'est pas forcément responsable du génocide. Maintenant, il y a un point très important, juste pour terminer, c'est Kagame qui, ce week-end, a dit, les soldats français ont participé aux tueries sur les collines de Bicêtre. Moi, j'étais à Bicêtre, c'est un endroit, donc là, on est à la fin, au moment de l'opération turquoise, quand vous évoquez les Français qui circulent au milieu des tueurs. Les Français sont arrivés très en retard à Bicêtre, sans doute encore une fois parce qu'ils n'avaient toujours pas inversé leur logiciel, ils n'avaient toujours pas compris qui étaient les victimes et qui étaient les bourreaux. Donc les Français sont arrivés en retard à Bicêtre, sans doute ils auraient pu sauver des vies, sans doute on peut leur reprocher une sorte de non-assistance à personne en danger. Maintenant, les accusations du président Kagame qui dit les soldats français ont tué les rescapés de Bicêtre, non, j'y étais, les soldats français non. Sont arrivés en retard, mais n'ont pas tué les rescapés de Bicêtre.
Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque, peut-être aussi. Il faut être conscient de ça.
Et puis, ça doit être tellement difficile de diriger un pays où il y a autant de millions d'assassins que de répéter régulièrement au moment des grands anniversaires que la France et la Belgique portent une part de responsabilité. C'est aussi une façon de...
Dans cet anniversaire, dans ce 20e anniversaire, il n'y aura pas de représentant officiel du gouvernement français.
À cause de ces accusations de Kagame ce week-end.
C'est une question qui arrive par Twitter et je vous la pose telle quelle. Question à Monsieur Poincaré. Comment fait-on pour vivre avec de tels souvenirs ?
Et ce serait malvenu de parler de mes problèmes de vivre avec, parce qu'il y a eu 1 million de morts à la machette. Donc le fait que quelques témoins comme moi soient encore un petit peu travaillés par tout ça, et c'est rien à l'échelle de ce que eux ont vécu.
Et ça permet, grâce aussi à votre talent pour le transmettre, ça permet à tout le monde de mieux comprendre et de saisir l'importance, l'ampleur de ce qui s'est passé. Je suis heureux qu'on ait pu faire cette émission pour essayer de clarifier un certain nombre de choses. J'ai bien conscience de n'avoir fait qu'effleurer la matière, mais je ne peux que renvoyer nos auditeurs à un certain nombre d'ouvrages. J'en ai là plein ma table. Je ne vais pas tous les citer. Il y en a qui sont passionnants, notamment ceux de Scolastique Mukasonga, bien entendu, qui a été prix Renaudot l'année dernière, Ce que murmurent les collines, Notre-Dame du Nil, et puis donc de Jean Hatzfeld dans la collection Fiction et compagnie au Seuil, Une saison de machette. Ce sont des récits sur le vif avec toutes les fautes de français. Enfin, on y est comme si on entendait ces gens nous parler. Et je vous rappelle que vous les entendrez aussi demain soir à 22h30 sur Arte. Merci infiniment, Nicolas Poincaré, d'être venu témoigner pour le Rwanda.